Morning Edition from NPR News.
Merci, Jean-Saint Bieberhausen.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons faire un tour dans les mines, pas celles que vous croyez. Nous allons essayer de comprendre ce que sont les mineurs de Bitcoin, cette crypto-monnaie que vous connaissez bien sûr. Pourquoi la Chine n'en veut plus, ce qui affole les cours. Pourquoi cette monnaie si volatile, qui fait plein de petits, est un jour portée au nul, le lendemain décriée par certains. On voit ça dans un tout petit instant. Le bruit du monde est au Pérou ce soir, avec les chefs amérindiens au cœur de l'Amazonie qui sont persécutés, parfois tués, souvent menacés par des trafiquants. Le phénomène n'est pas nouveau, mais la pandémie a fait revenir tous ces escrocs et malfaisants. Le bruit du monde de la suite. Sous les radars, Anaïs Feuga a trouvé une église en RDC visée par une bombe. Des prévisions de croissance à 40 ans en Australie et un hôtel avec vue à Shanghai très très haute. La vue, vous allez voir, 18h50, l'Amérique d'après Trump et Grégory Phillips. Je vous dis pas de quoi on parlera, il faudra rester. Le monde d'après et Jean-Marc Four en Suède qui est en train de voir le bout de son modèle de social-démocratie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabien Serdès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Manuel Valente.
Bonsoir.
Vous êtes directeur analyse et recherche chez CoinHouse. Régulièrement, nous revenons sur le Bitcoin dans cette émission pour essayer de comprendre ce qui s'y joue et parfois ce qui s'y déjoue. D'ailleurs, il y a deux choses qui ont attiré notre attention tout récemment. Elon Musk qui dit oui, qui avait déjà dit oui au Bitcoin bien sûr, puis qui subitement dit non, mais oui à nouveau et entraîne avec lui en haut et en bas les cours. Il y a surtout la Chine et donc cette perte de 55% de la valeur du Bitcoin par rapport à des records signés au mois d'avril dernier. Manuel Valente, la dernière fois que vous êtes venu, je vous ai dit, racontez-moi comme si j'avais 5 ans et demi. Je vous préviens, j'ai pas beaucoup grandi. Je voudrais savoir d'abord à quoi joue la Chine, qui semble-t-il est en train de souffler le chaud et le froid. Est-ce que quelque chose lui fait peur? Est-ce qu'elle veut peser? À quoi elle joue?
Je pense que vous avez raison, elle veut peser. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, depuis un an environ, développe sa propre crypto-monnaie d'État. C'est-à-dire, bientôt, les citoyens chinois pourront avoir des yuan numériques dans leur poche. D'ailleurs, il y a déjà des expérimentations qui sont en cours dans plusieurs villes chinoises. Et on pense, nous, que fondamentalement, la Chine, elle veut avoir une exclusivité totale sur le marché de la crypto-monnaie sur son territoire. Elle ne veut pas qu'il y ait de concurrence, elle ne veut pas qu'il y ait d'autres monnaies que sa monnaie officielle étatique.
Est-ce qu'elle marchera exactement de la même manière, le yuan, parce qu'il y a des choses, et c'est pour ça d'ailleurs que la Chine a décidé de fermer un certain nombre de ses mines en disant que ce n'est pas du tout écolo, etc., ce qui est d'ailleurs une réalité. Est-ce que ça marchera différemment? Ou est-ce que le jeu de dupe est exactement là? Ce sera tout aussi polluant pour le yuan que ça l'est aujourd'hui pour le bitcoin.
Non, en général, les crypto-monnaies étatiques, elles n'utiliseront pas ou alors très peu d'électricité pour leur fonctionnement. La consommation électrique, qui est une réalité pour le bitcoin et un certain nombre d'autres crypto-monnaies, elle est spécifique à ces crypto-monnaies qui sont dites décentralisées, qui n'appartiennent pas à des États ou des entreprises.
Alors on va y venir, mais est-ce que ça veut dire que cette crypto-monnaie que se prépare la Chine pour elle-même, comme il commence à en exister beaucoup. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, est-ce qu'on sait compter combien il y a de monnaies virtuelles ou crypto-monnaies dans le monde aujourd'hui?
Entre 8 et 10 000.
C'est ça, voilà. Il y en a énormément. Est-ce que ça veut dire que c'est juste réservé au marché intérieur? Donc c'est vraiment un marché d'échange, alors que le Bitcoin, est-ce que c'est vraiment encore une histoire d'échange ou simplement de spéculation?
Vous avez raison. Le but fondamental du e-yuan, ce sera d'être une monnaie d'échange au quotidien, en fait, de pouvoir...
Donc c'est juste un porte-monnaie virtuel, en fait.
Absolument. Dont la valeur sera toujours exactement la même que celle d'un yuan. Tandis qu'un Bitcoin, par exemple, on le sait, il est extrêmement volatile, et du coup, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle une crypto-asset plutôt qu'une crypto-monnaie. Avec quelque chose qui est beaucoup plus utilisé pour l'investissement que pour l'échange.
Alors, pour l'investissement et même plus que ça, est-ce que le Bitcoin perturbe l'ordre normal, j'allais dire, du fonctionnement de la monnaie? Est-ce que c'est ça aussi qui fait peur, pas seulement à la Chine d'ailleurs, mais aussi à d'autres? Est-ce que ça a été un coup de pied monumental réellement dans la fourmilière?
Je crois que pour l'instant, ça reste encore anecdotique par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment un phénomène qui a vraiment réveillé les États récemment, c'est l'apparition du Libra de Facebook. Jusque-là, on avait l'impression que les États se disaient que c'était un peu un épiphénomène, que ça restait un petit peu dans son coin et que c'était pas grave. Quand Facebook a fait son annonce, là, l'ensemble des banques centrales se sont réveillées. Et aujourd'hui, vous avez l'ensemble des banques centrales qui travaillent à leur propre crypto-monnaie.
Mais alors, Libra, c'était ou c'est une monnaie virtuelle que Mark Zuckerberg effectivement voulait adosser à Facebook? Moi, je pensais que ça avait quasiment disparu.
Alors, ça a été renommé. Depuis, ça s'appelle le Diem. Le projet existe encore, même si, alors, vous vous souvenez, hein, il avait eu un énorme retentissement médiatique.
Bon cas total, oui.
Très, très négatif, notamment par les autorités américaines. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. Facebook a revu un peu sa copie et il travaille toujours sur le projet. On ne sait pas à l'heure actuelle quand est-ce qu'il prévoit de le lancer, mais c'est toujours d'actualité.
Alors, mais est-ce que dans un pays au commerce aussi tentaculaire que la Chine et une influence telle sur le commerce mondial, est-ce que quand la Chine dit « nous, le Bitcoin, c'est non », quelles que soient les raisons, est-ce que ça signe pas la mort annoncée du Bitcoin, en fait ?
Non, parce que le Bitcoin, c'est mondial. C'est un réseau global d'échanges et d'investissements. Si la Chine, effectivement, interdit complètement l'utilisation du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur son territoire, bon, évidemment, ça porte un coût à l'ensemble du marché. Ça réduit un peu le nombre de personnes qui pourront en acheter ou en vendre. Mais bah, y a tous les autres pays qui continuent à pouvoir l'utiliser tranquillement.
Et qu'est-ce qui se passe quand la Chine dit qu'elle ferme ce qu'on appelle les fermes Bitcoin ? C'est-à-dire, c'est là que, je ne sais pas comment le dire de manière très béotienne, j'allais dire, c'est là que ça se fabrique. Non, c'est pas là que ça se fabrique. Quand c'est virtuel, on ne fabrique pas, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais enfin, c'est là, en tout cas, que sont tous les processus qui permettent de... Comment je peux le décrire, d'ailleurs ? Comment je peux décrire ça ?
Alors, dans le monde du Bitcoin, ce qu'on appelle le minage, c'est une activité qui est faite par des ordinateurs qui sert à valider les transactions. Donc, comme il n'y a pas de banque centrale qui vérifie toutes les transactions, ça se fait de façon complètement décentralisée. N'importe qui peut devenir mineur. Et c'est une activité qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, consomme beaucoup d'électricité.
Alors, on appelle ça des fermes. Effectivement, si ces fermes, en Chine, elles s'installent où ? Est-ce qu'il y a autour des pays qui seraient ravis d'accueillir toutes ces fermes-là, y compris si ça coûte un prix exorbitant en termes d'électricité et donc d'environnement ? Est-ce qu'il y a que l'embarras du choix ou pas ?
Alors, il n'y a pas forcément l'embarras du choix parce que, évidemment, ces entreprises, elles vont chercher, comme vous dites, à trouver l'électricité la moins chère possible. Et on voit d'ores et déjà que les entreprises qui étaient installées en Chine, aujourd'hui, elles sont en train de se déplacer vers le Kazakhstan, où l'électricité n'est pas chère du tout, et plus étonnant, vers le Texas, qui semble vouloir attirer ces entreprises pour qu'elles viennent sur son sol.
Est-ce qu'on peut donner une image aux gens ? Ça ressemble à quoi, une ferme Bitcoin, en fait ? En termes de volume, par exemple, moi j'ai une espèce d'image d'ordinateur partout, dans d'immenses pièces, et tout ça effectivement dépensant beaucoup d'électricité. Ça ressemble vraiment à ça ?
Oui, imaginez un hangar rempli de rayonnages. Sur chaque rayonnage, vous avez 100 ou 200 ordinateurs qui travaillent tout le temps, à essayer de valider les transactions et à les ajouter sur ce qu'on appelle la blockchain.
Est-ce qu'il y a un moyen, lorsque Elon Musk a fini par dire, qui était très présent dans le Bitcoin précédemment, qui en avait investi une bonne part, je crois que c'est la deuxième entreprise qui avait investi le plus dans le monde, subitement Elon Musk dit non. Le cours, boum, se casse la figure. Oui. Et puis finalement, il dit oui, pourquoi pas, il faudrait juste inventer un système de ferme verte, en fait. Est-ce que c'est réellement possible ? Est-ce qu'on peut être moins gourmand en électricité ou est-ce qu'il faut simplement que l'arrivage de l'électricité se fasse de manière différente ?
On peut certainement être beaucoup moins gourmand en électricité. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin, c'est la première version des crypto-monnaies. Hein. Elle a été créée en 2009. Mais depuis, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu plus de 8000 projets. Et sur ces 8000 projets, il y en a un certain nombre, et notamment des projets proéminents, qui, eux, sont en train de travailler sur des méthodes de vérification des transactions, parce que c'est juste ça, hein, c'est juste pour pouvoir vérifier les transactions, qui, elles, consomment pas ou alors très 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 peu d'électricité. Et donc, on pourrait voir de plus en plus de projets qui commencent à migrer vers ces autres moyens de vérification et qui, du coup, consommeraient absolument plus rien.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se produise ? Parce qu'encore une fois, on est bien content quand les mines sont chinoises et qu'il y en a partout et que ça dépense une électricité et que c'est écologiquement une hérésie, mais nous, c'est loin de nous, donc on le voit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se démocratise un peu plus, pour qu'on le voit apparaître, pourquoi pas chez nous ou ailleurs ?
Du développement informatique.
Est-ce qu'on a intérêt d'ailleurs ou pas ?
Du développement informatique. Il faut que les gestionnaires des différents projets autour des crypto-monnaies travaillent sur la question, fassent du code informatique pour ne plus dépendre de cette ancienne façon de vérifier les transactions, mais pour s'adapter. Après, ce qu'on peut dire aussi, aussi, c'est que d'ores et déjà, vous avez à peu près 40% de l'électricité qui est utilisée aujourd'hui pour le minage, qui vient d'énergie verte, notamment surtout de l'hydroélectricité. Donc le schéma n'est pas si noir que ça, même si, bien évidemment, on aimerait pouvoir diminuer très fortement cette consommation.
Or, il se trouve que le Bitcoin est toujours un peu une niche quand même, vous serez d'accord avec ça, Manuel Valenti? Moi, j'en ai pas, vous sûrement, mais moi non, la plupart des gens non. On a bien compris qu'effectivement, on s'en servirait pas pour acheter des biens de consommation courante, parce que ça n'existe pas, ça n'est qu'un objet de spéculation aujourd'hui. Plus il sera développé, plus on aura besoin de ces mines-là, et donc plus ce sera vorace en électricité. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mordre la queue?
Alors, c'est pas le cas, dans la mesure où le minage de Bitcoin et d'autres, la quantité d'électricité consommée ne dépend pas du nombre de transactions. C'est-à-dire, vous pouvez multiplier par 10, par 20, par 100 le nombre de transactions, ça n'affectera pas l'électricité consommée. Donc ça, au moins, c'est déjà un point positif.
Pourquoi ça prend pas? Là, j'ai sous les yeux la liste des principales sociétés qui sont cotées, qui sont détentrices de Bitcoin. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont les plus importantes sont MicroStrategy, effectivement, et Tesla. Et puis après, poum, on descend à des valeurs qui sont beaucoup moins importantes. Pourquoi ça prend pas?
Alors ça prend, justement, jusqu'en 2020, vous aviez aucune entreprise qui était exposée au Bitcoin. En 2020, c'est vraiment l'arrivée des institutionnels, vous l'avez dit, les corporates tels que MicroStrategy et Tesla qui arrivent sur le marché, mais également des très très grandes banques. Vous avez par exemple Goldman Sachs, énorme banque américaine, qui dit que les crypto-monnaies sont aujourd'hui une nouvelle catégorie d'assets et qui vont proposer à leurs clients institutionnels de s'y exposer. Vous avez les hedge funds. Il y a eu une étude récente sur les hedge funds aux États-Unis qui prévoit.
Je suis sûr que ce soit une bonne publicité, ni pour le Bitcoin, ni pour les hedge funds, en fait, dans ce genre de cas. Mais bon, allez-y.
Disons que là, on arrive à un moment de l'histoire des crypto-monnaies où les institutionnels commencent à les accepter comme un produit financier, comme un autre, et à s'y exposer. Et donc, par percolation, on se dit que ça va probablement rejaillir sur l'ensemble de la population.
Avec une volatilité quand même qui est tellement dingue, tellement énorme, on est monté jusqu'à combien, 55 000 dollars le Bitcoin?
Donc, 65
000. 65 000 dollars, on était au mois d'avril, on en est à 30 000 aujourd'hui. C'est une très grosse somme, enfin ça s'appelle aussi une cavalcade, et cette chute-là est due non seulement à Elon Musk et aussi à la Chine. Cette volatilité-là, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle est soutenable en fait pour nous, surtout si nous, commun des mortels, allons vers ce genre de monnaie, est-ce que c'est vraiment soutenable pour nous?
Alors, vous avez raison sur le fait que c'est effectivement quelque chose qui reste, qui a toujours été et qui reste très volatile. Malgré tout, sur le moyen long terme, la proposition, elle reste intéressante. Je vais juste vous donner un chiffre. Sur la décennie 2010-2020, le Bitcoin, c'est le produit financier qui a représenté la meilleure proposition de valeur, avec une augmentation de 900 000%. Vous avez absolument aucun produit, que ce soit sur n'importe quel marché, les actions ou autres produits, qui a une telle performance.
On peut l'amoindrir, cette volatilité? Est-ce qu'on peut rendre le Bitcoin raisonnable? Pardon de le dire comme ça.
Alors, je dirais que, au fur et à mesure que vous allez avoir des entreprises, notamment des entreprises CAC 40, Nasdaq et autres, qui vont commencer à s'y intéresser, il est probable que sa volatilité va diminuer parce que ces entreprises, elles vont investir de façon beaucoup plus raisonnée.
Et c'est un peu le diable qui se mord la queue, puisque pour l'instant, elles n'investissent pas parce que c'est trop volatile. Donc, du coup, on a un peu l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Vous citiez les grandes institutions financières, donc les hedge funds, les grandes banques, etc. Mais effectivement, à quand une entreprise, y compris une entreprise française, Renault, Peugeot ou je ne sais quoi, qui travaillerait en Bitcoin, est-ce que ça existe, ça?
Alors, en France, on est quand même un peu relativement frileux encore sur ce marché, même si nous, on voit au quotidien, notamment chez CoinHouse, des entreprises qui viennent nous voir. Pour l'instant, c'est des entreprises qui peuvent être modestes, mais s'il y avait une entreprise du CAC 40 un jour qui s'y intéressait, on serait absolument preneurs de pouvoir les aider à le faire.
Est-ce qu'on est les seuls à être frileux ou est-ce qu'il y a d'abord les Américains et puis les autres derrière, l'ensemble de l'Europe? Est-ce qu'il y a des entreprises, allemandes, britanniques par exemple, qui sont nettement plus en avance que nous ou pas?
En Angleterre, les gens ils sont un peu moins frileux, ils sont un peu plus exposés au marché des crypto-monnaies. Et puis, vous avez des choses intéressantes qui se produisent par ailleurs. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des produits dérivés sur le Bitcoin qui commencent à apparaître, notamment à la bourse de Vienne. Et donc, nous, bien entendu, on salue ces ses progrès, et vous avez surtout la Suisse chez laquelle il y a vraiment un développement très très fort de ces entreprises et de leur développement.
Comment on fait pour ne pas en faire, parce que c'est ça aussi qu'on lui reproche beaucoup, pour ne pas en faire une monnaie de blanchiment, et je vous pose la question parce que il y a de plus en plus de cas de ransomware en ce moment, donc de logiciels de rançon. C'est comme ça que il y a des hôpitaux notamment dont les systèmes informatiques ont été bloqués, y compris pendant la pandémie. Donnez-moi une rançon en Bitcoin et je vous aide à débloquer votre système informatique. Le Bitcoin, c'est le terrain rêvé pour ces gens-là. Comment on fait pour pour rendre cette crypto-monnaie vertueuse, c'est le mot que je cherchais.
Avec de la régulation. Et nous, en France, on a la chance d'avoir été l'un des premiers États au monde à avoir créé une régulation autour de ce marché, avec la loi Pacte de 2019, qui a créé un statut pour les entreprises qui achètent et qui fournissent des services autour des crypto-monnaies, qui s'appelle donc le statut PSAN pour prestataire de services en actifs numériques. Vous avez l'Union européenne qui travaille actuellement à l'établissement d'un statut commun pour l'ensemble des pays. Et vous avez le G7 qui lui-même a commencé à se poser des questions et à essayer de faire un peu une coordination autour de ce sujet. Donc clairement, pour rendre le Bitcoin et les crypto-monnaies plus vertueuses, il faut de la réglementation, il faut que ces entreprises elles soient encadrées exactement comme n'importe quelle entreprise du monde de la finance traditionnelle.
Mais je ne comprends pas comment on ferait pour suivre. Comment est-ce qu'on, même si c'est encadré, y compris par le G7, si moi je décide de me faire payer une rançon en Bitcoin, est-ce que parce qu'il y a cet encadrement, j'aurai plus ou moins de facilité à me faire attraper derrière?
Vous savez, ce qu'on appelle la lutte contre le blanchiment, c'est notamment le fait de vérifier à chaque fois que vous arrivez dans une banque avec des fonds, la banque elle va vérifier la provenance de ces fonds. Donc de la même façon, on peut très bien imaginer, et nous on le fait déjà au quotidien, que une entreprise qui achète et qui vend du Bitcoin vérifie la provenance des fonds, et si elle s'aperçoit que ces fonds ils proviennent d'un ransomware, bien entendu on les acceptera pas. Et au fur et à mesure du temps, lorsque vous aurez de plus en plus d'États qui auront mis en place une réglementation, ces gens malhonnêtes, ils auront de plus en plus de mal et on espère qu'un jour ils y arriveront plus jamais à écouler le fruit de leur activité criminelle.
Une dernière question pour vous, Manuel Valente. Vous le disiez, il y a entre 8 et 10 000monnaies, crypto-monnaies désormais dans le monde. Est-ce qu'elles se connaissent entre elles? Est-ce qu'elles peuvent interagir entre elles? Est-ce qu'elles sont autre chose? Est-ce qu'elles peuvent se concurrencer entre elles? Ou est-ce qu'elles sont autre chose que des circuits clos, en fait, pour la plupart?
Alors, vous avez raison sur le fait qu'à l'heure actuelle, elles fonctionnent pour la plupart en vase clos. Et vous avez des projets informatiques. Là encore, il faut du développement, il faut des informaticiens qui travaillent activement à les faire se parler entre elles et pour qu'un jour on puisse travailler sur à peu près n'importe quelle blockchain, n'importe quel système et qu'ils soient tous compatibles les uns avec les autres.
Donc on pourra échanger un Manuel Coin contre un Fabien Coin et faire des transactions comme ça. À terme, c'est ce que vous imaginez?
Absolument.
Ben écoutez, on s'en souviendra quand on aura créé nos deux monnaies tous les deux. Manuel Valente, merci beaucoup pour cette piqûre de rappel autour de ce vaste sujet du Bitcoin. Vous pourrez revenir bientôt pour une deuxième dose. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde au Pérou, là où les leaders amérindiens sont persécutés, parfois tués par ceux qui trafiquent dans leur secteur. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Anaïs Feugam.
La crise du Covid va impacter l'économie australienne pour les 40 prochaines années, car les flux migratoires se sont arrêtés.
L'Amérique d'après, après Trump et Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir, on va parler de frappe militaire américaine en Irak, du plan de Biden sur les infrastructures et puis aussi peut-être un petit peu de Bruce Springsteen.
Peut-être un tout petit peu, on verra ça. Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. En Suède, le Premier ministre démissionne et c'est un révélateur. La social-démocratie, même dans sa place forte suédoise, est mal en point.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il fait escale entre San Francisco et Los Angeles. Marinero raconte comme un adieu comment il quitte sa ville de San Francisco pour s'installer à LA, ça s'appelle Through the Fog, à travers le brouillard. C'est la playlist de France Inter.
days that I knew on Tuesdays to remind you. Even though we know this world is ending, but don't you fear, we'll get through this, my dear. And we won't have to get through this alone. It'll pass, this will clear. It'll pass, don't you fear. And we won't have to get through this alone. It'll pass, this will clear. It'll pass, don't you fear.
Le bruit du monde ce soir est au Pérou. On a parlé du Pérou ici même la semaine dernière après l'élection très très disputée à la présidence de la République. C'est un peu ailleurs que je vais vous emmener, et encore que, au Pérou, des leaders amérindiens subissent la violence de ceux qui trafiquent sur leur territoire pour en extraire du bois, de l'or ou cultiver illégalement la coca pour en faire de la drogue. C'est pas nouveau. Mais ces trafics se sont exacerbés depuis le début de la pandémie, car les zones éloignées d'Amazonie sont moins surveillées. Les menaces n'ont fait que croître. Ces leaders amérindiens vivent dans l'insécurité permanente, certains dans la peur même de se faire tuer. Nous sommes dans la région d'Ucayali. C'est en Amazonie péruvienne, proche de la frontière avec le Brésil. Et le reste, c'est Amanda Chaparro qui raconte.
Erline Odicio est vêtue tout en noir, une casquette enfoncée sur la tête, cachant son regard. À 35 ans, ce jeune chef amérindien de l'ethnie Kakataïbo, qui compte près de 5000 personnes, est un homme menacé de mort pour avoir dénoncé les narcotrafiquants qui opèrent sur son territoire. On le rencontre dans son village de Yamino, au cœur de l'Amazonie centrale péruvienne, où il ne vit plus pour raison de sécurité.
Ici même, dans le village, un narco est venu me chercher. Et il m'a dit, nous savons qui tu es. Nous voulons négocier avec toi pour que tu retires ta plainte.
Les trafiquants ont envahi les terres de la communauté. Ils y font pousser la feuille de coca, base de la cocaïne, qu'ils transforment et expédient par avion sous forme de pâte ou de poudre vers le Brésil ou la Bolivie voisine.
Il m'a dit que pour chaque vol, on peut te donner 500 000 soles, un demi-million. L'équivalent de plus de 100 000 euros. Et en plus de cela, on peut te donner un salaire. J'ai refusé. Et depuis ce moment, les appels anonymes ont commencé. On te cherche mort ou vif. Je suis à un pas de me faire tuer.
Erline a peur de rejoindre la liste des leaders assassinés. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, en mars dernier, 9 leaders environnementaux, dont 7 Amérindiens, ont été tués. Des dizaines d'autres, voire des centaines, sont menacés. La vigilance des autorités, déjà faible dans ces zones, a diminué avec la pandémie. C'est ce que nous explique Edgardo Rodriguez, directeur du Bureau des droits de l'homme au ministère de la Justice.
La plupart des policiers des zones éloignées ont été envoyés dans les centres urbains et les zones isolées se sont retrouvées sans protection. Les narcos ont profité de cette absence, du repli de l'État, pour opérer dans les territoires. Les défenseurs environnementaux ont été laissés quasiment seuls.
À Yamino, il suffit de faire quelques pas en dehors du village pour tomber sur un champ de coca.
Ceci est une plantation de feuilles de coca. Une plantation illicite.
César Lopez est un métis, surveillant de la forêt. Il est bénévole et rend compte des incursions sur le territoire autochtone.
Nous, les surveillants, nous inspectons les limites du territoire. Nous patrouillons constamment. Nous voyons la déforestation. Des plantations illicites qui viennent juste d'être semées.
César rapporte ses relevés aux autorités qui se chargent du travail d'éradication. Un travail colossal, explique le colonel Luis Pacheco.
L'espace cocalier est en cours d'identification. Il se trouve dans les communautés autochtones, les parcs et les réserves. Le travail d'éradication est important pour contenir l'expansion, sinon on ne pourrait plus le stopper.
En moyenne, 25 000 hectares de coca sont éradiqués chaque année au Pérou. Mais ces opérations d'éradication ont été stoppées net avec la pandémie. Résultat, les chiffres de la déforestation ont bondi. Le narcotrafic n'est pas seul en cause. Bois, or, élevage, palmiers à huile, plusieurs milliers d'hectares disparaissent chaque année. Face à l'invasion, les leaders ont décidé de réagir. Erline a convoqué un rassemblement de dirigeants de plusieurs ethnies. Parés de leurs habits traditionnels, longues tuniques, bandeaux autour du crâne et armés de flèches, les caciques s'enfoncent dans la forêt. Ce rassemblement doit marquer le pas de la résistance amérindienne. Berlin Dikes est dirigeant de l'ethnie Achaninka, le plus grand groupe amazonien du Pérou.
Nous traversons un moment critique. Nous avons décidé de réorganiser notre défense pour nettoyer nos territoires. Nous le faisons avec nos arcs et nos flèches, nos armes ancestrales. Pour autant, nous ne voulons pas la guerre, mais qu'on nous respecte et que l'État nous aide.
Le gouvernement a promis un mécanisme de protection multisectorielle qui va d'une surveillance accrue du territoire à une protection physique et à l'éventuelle évacuation avec mise à l'abri des leaders menacés. Les dirigeants amérindiens espèrent que cette fois-ci, la résolution ne restera pas lettre morte et qu'ils n'auront plus à compter leurs morts.
Amanda Chaparro pour le reportage. Merci beaucoup, à très vite. C'est le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars et c'est Anaïs Fega. Et Anaïs, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Beni, sous couvre-feu depuis hier soir.
Oui, car dans la journée hier, deux bombes ont explosé dans cette ville. La première à l'aube, placée à l'intérieur d'une église catholique. Elle a explosé 2 heures avant le début de la confirmation des enfants. On attendait donc une foule. 2 personnes ont été blessées. C'est ce que raconte Josué Kambal, chef du quartier. Il y a 2 mamans qui sont blessées, qui étaient ici tôt le matin pour les travaux d'entretien et lors dans l'église. Il y en a une qui est gravement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital. Nous allons aller voir comment elle va. Une 2e bombe a explosé dans la soirée dans les mains de son porteur. C'est la première fois qu'un édifice qui appartient à l'église catholique majoritaire ici est directement ciblé. Une alerte à ne pas négliger, selon le vicaire général de Beni, Mgr Laurent Sondiria, alors que le groupe ADF sévit dans le coin.
C'est déjà un signe. Ce n'est pas seulement ciblé sur l'église. Ça peut être ciblé sur tous les endroits publics. Alors c'est un début et qui nous alerte pour faire attention.
Le groupe ADF, qui est à l'origine un groupe armé musulman ougandais, sévit dans le secteur. Il s'agit des forces démocratiques alliées. Depuis des années, il terrorise la région avec ses attaques de villages. En mars, les États-Unis l'ont classé parmi les groupes affiliés au groupe État islamique, mais sans qu'on sache vraiment quelle est la réalité de ces liens. En tout cas, c'est un ennemi sournois, selon les mots du président Félix Tshisekedi. Il s'est rendu dans la région il y a 10 jours. Outre les ADF, 120 groupes terroristes ont été répertoriés. La Banque mondiale a débloqué 50 millions de dollars pour permettre la démobilisation de ces miliciens congolais, souvent enrôlés dans ces groupes armés faute d'autres sources de revenus.
La pandémie de coronavirus en Australie aura un impact pour les décennies à venir.
Oui, des nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés aujourd'hui à Brisbane, à Sydney ou à Perth. Le variant Delta. À Sydney, le plus important foyer épidémique actuel s'est développé autour d'un chauffeur qui travaille pour des compagnies aériennes. Résultat, la ville la plus peuplée d'Australie se reconfine pour 2 semaines. L'île continent avait plutôt bien géré la pandémie en fermant ses frontières internationales en mars 2020. Le flux migratoire ne rouvrira, dit le gouvernement, que lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité. Eh bien, tout cela a des conséquences sur le modèle économique australien basé sur la croissance démographique. Le pays vient d'abaisser ses prévisions de croissance pour les 40 prochaines années.
Premièrement, notre population s'accroît plus lentement, explique Jos Friedenberg, le ministre de l'économie, et la population vieillit plus vite que prévu, ce qui impacte la croissance économique. Deuxièmement, l'économie australienne va continuer sa croissance, mais moins vite que ce qu'on pensait. Le Covid-19 a créé le plus sévère choc économique depuis la Grande Dépression. Au lieu d'avoir 40 millions d'habitants en 2056, l'Australie ne devrait en avoir que 38,8 millions. Et les prévisions de croissance ont été revues à la baisse, 2,6% au lieu de 3 par an pour les 40 prochaines années.
Et là aussi, c'est vertigineux. Anaïs, pour terminer, au sens propre du terme, nous sommes à Shanghai.
Oui, le plus haut hôtel du monde vient d'ouvrir ses portes. Au sommet de la tour Shanghai, qui domine la capitale économique chinoise depuis, c'est 632 mètres. C'est le deuxième immeuble le plus élevé de la planète. Inutile de préciser que cet hôtel, c'est un établissement de luxe. Voici sa directrice des ventes, Madame Renée Wu. Notre réception est à 470 mètres de haut et le point culminant de l'hôtel, c'est le 120e étage, il est à 556 mètres. Le jour de notre ouverture, même la page internet était saturée, le public a une telle envie de venir découvrir notre hôtel. Alors, l'expérience de cet hôtel, eh bien, c'est une vue vertigineuse. Il faut avoir le corps bien accroché. La ville a l'air minuscule tout en bas. C'est quand même deux fois plus haut que la tour Eiffel. Prix vertigineux aussi. La suite avec chandelier en cristal et sauna est à près de 9000 euros pour un samedi soir.
Ah ben, écoutez, vous imaginez la loose de celui qui habite au rez-de-chaussée. J'espère au moins qu'il a un tout petit jardinet. Merci beaucoup, Anaïs Feugat. Merci vraiment. Allez, direction Washington.
France Inter, un jour dans le monde.
L'Amérique d'après, c'est tous les lundis dans Un jour dans le monde. On n'est pas très surpris d'entendre... Il y a des bruits derrière vous, Grégory, c'est normal ou pas? Ah oui. On entend des cartons, en fait. On entend des cartons qui sont en train de se plier. C'est votre toute dernière chronique. On en est vraiment désolé pour vous, Grégory, mais on saura vous remplacer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, l'actualité, c'est vous. Ce sont des frappes militaires américaines qui ont visé des milices pro-iraniennes déployées en Syrie et en Irak.
Allô?
Oui.
Oui, le Pentagone a confirmé effectivement cette série de raids qui hier soir ont visé des...
Grégory, vous m'entendez?
Oui.
Vous croyez quand même pas que je vais vous laisser faire une chronique normale? Vous croyez pas que je vais vous laisser partir comme ça? En vous disant que c'est juste la dernière, vous savez comment je voudrais qu'on parte tous les deux? Comment je voudrais pouvoir vous dire au revoir?
Vous voulez pas que je vous parle de la Syrie?
Eh ben non, plutôt que vous me parliez de ça. Alors c'est votre femme qui a cafeté, qui dit que c'est l'une de vos préférées, est-ce que c'est vrai?
Elle a raison. Ben voilà. Magnifique chanson du boss.
Et ouais, et c'est vrai que c'est votre dernière chronique, Grégory, avant de partir, que t'en as passé autant de temps dans un pays comme ça. Il y a une dernière chose qu'on a envie de faire. Vous, c'est ça que vous allez faire, en fait?
Oui, alors écoutez le Springsteen pour marquer la fin de ses 4 années de correspondance aux US a repris sa série de concerts à Broadway, à New York et j'ai réussi à trouver un ticket pour demain soir, ce qui sera mon dernier jour aux États-Unis pour aller voir Bruce en concert.
Eh ben, on est vraiment ravis pour vous. C'est vraiment la meilleure manière vraiment de terminer. Enfin, c'est quand même aussi un petit échec, si je puis me permettre, parce que vous l'avez jamais croisé. C'est pas faute d'avoir essayé, Greg.
Non. J'ai envoyé à peu près 250 mails à sa manager perso pendant 4 ans.
C'est pour ça que vous devez rentrer d'ailleurs. La police vous le demande, le FBI vous le demande.
J'ai approché au moins 2 membres du Street Band. Je suis allé en week-end à Asbury Park ou faire des reportages à Asbury Park dans le New Jersey à peu près 3 fois par an. Mais non, j'ai pas réussi à interviewer Springsteen, mais c'est pas grave, ça me donnera l'occasion de revenir pour une longue interview avec lui.
Puis faut pas approcher ses idoles, on sait jamais en fait. Ça se trouve, il est pas sympa.
Peut-être.
Allez savoir, qu'est-ce qu'on en sait.
Peut-être.
Mais justement, j'allais vous demander, Grégory, on a été ravis de vous entendre évidemment chaque semaine dans Un jour dans le monde et même au-delà. Qu'est-ce que vous gardez, vous, s'il y a un reportage que vous gardez, que vous mettez dans votre besace et que vous ramenez en France, c'est lequel?
Écoutez, c'est un pays que je connaissais bien pour y être venu très souvent à l'époque où vous-même vous étiez correspondante et moi j'étais envoyé spécial. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui est absolument incroyable dans ce pays, c'est les Américains. Enfin, il y a les paysages d'abord qui sont dingues et puis les Américains qui sont, comment dire, toujours... accueillant, toujours fonctionnant au premier degré, mais dans le bon sens du terme. Il y a pas de, ils sont souvent assez directs, assez francs, et puis ils affichent leurs opinions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de manière assez claire. Enfin, c'est pas pour rien que quand il y a une élection, tout le monde met sur sa pelouse pour qui il vote. Et c'est franchement très agréable de pouvoir comme ça échanger de manière un peu cash avec les gens et d'être accueilli, même, je sais pas, chez des électeurs trumpistes qui disent détester CNN et les médias, mais qui vous ouvrent grand les portes de leur ranch en Arizona et qui sont un peu étonnés que vous n'acceptiez pas immédiatement de passer 3 ou 4 jours et de revenir avec la famille parce qu'ils sont sympas, ces Américains. Quoi. Ouais, et pendant 4 ans, ça a été un vrai plaisir.
Et moi, j'avais cette phrase toujours, disais, les Américains, quand j'y suis, je les critique et dès que je suis en France, je les défends, en fait. Et vous allez voir que vous allez vous prendre à les défendre, vous aussi. Je suis en train de me demander si on vous a pas mis à la porte de votre appartement, tellement j'entends bien les camions qui passent. Et comme Jean-Marc Four vient de s'installer pour sa chronique à suivre, il a exhumé quelques photos scandaleuses, mais qu'on peut exhumer maintenant, non, Jean-Marc?
Mais oui, mais Greg Phillips avec Joe Biden.
Voilà, c'est de celle-là dont on parle.
Ah oui, elle était pas censée être publique, mais est-ce que vous voulez que je vous raconte ça en 30 secondes?
Ah bah oui, bien sûr, évidemment qu'on veut.
Écoutez, c'était Super Tuesday, c'était juste avant l'épidémie de coronavirus, et j'étais en reportage à San Francisco. Il se trouve que j'avais proposé à mon épouse et à ma petite fille Nola de venir avec moi passer quelques jours en Californie pendant que je travaillais. Et puis mon épouse me dit, mais je crois que Biden va dans un diner demain matin, tu devrais aller faire un tour. Bon, on y va, il y a personne sur place, on petit déjeune à l'américaine avec sans doute des toasts et des pancakes. Et puis effectivement, Joe Biden est arrivé une heure après, tous les journalistes étaient bloqués dehors et nous on était à l'intérieur comme des clients. Et donc le staff de Biden a vu ma petite fille, a dit il faut que vous fassiez une photo avec le candidat. J'étais évidemment un peu gêné. Et puis Biden est arrivé vers nous en disant mais si, faisons la photo ensemble, ça nous fait plaisir. Ah, vous êtes français, vous savez que mon nom Joseph Robinette Biden est d'origine française.
Ah ben, Robinette, c'est sûr.
Voilà, et donc on a eu cette conversation avec celui qui n'était encore que candidat, et puis effectivement la photo avec celui qui est maintenant président avec toute la famille. Bon, c'est un joli souvenir. Je suis pas très fan des selfies, sauf si j'arrive à croiser Springsteen demain soir.
Évidemment. Attend ça, on l'attend vraiment. Greg, on vous souhaite un excellent concert, on vous souhaite un bon retour, on vous remercie vraiment pour tout. Merci, vous avez été un formidable raconteur de l'Amérique. Passez boire un verre, évidemment, quand vous remettrez un pied en France. L'Amérique, d'après Grégory, ce sera pas exactement la même. On vous embrasse très fort.
C'était un vrai plaisir, Fabienne.
Salut Greg, ciao.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Bon Jean-Marc, il n'y a pas de surprise pour vous, sauf qu'il va falloir cavaler parce qu'on a pris un peu de retard. Le monde d'après, ça passe inaperçu, mais la Suède est en pleine crise politique. Le Premier ministre de centre-gauche, mis en minorité au Parlement, a démissionné ce matin. Ça peut paraître anecdotique, mais pour vous, c'est le révélateur de l'enlisement de la social-démocratie européenne. Mais c'est votre monde d'après.
Parce que la Suède, c'est le pays par excellence de la social-démocratie, l'un de ses berceaux et surtout l'une de ses places fortes. Au cours du siècle écoulé, depuis 1920, les sociaux-démocrates ont dirigé le pays 80 ans au total, dont de longues périodes ininterrompues. Dans les années 50, 60, 70, 80. Plus récemment, ils ont été au pouvoir pendant 17 des 25 dernières années. Ils sont aussi l'incarnation d'une culture politique, celle d'un pays qui privilégie le compromis, la stabilité, défend la protection sociale, les services publics. Et puis, patatras, la semaine dernière, pour la première fois dans l'histoire politique moderne de la Suède, le Parlement a voté la défiance contre le gouvernement. Fini la stabilité. Et tout à l'heure, le Premier ministre a donc jeté l'éponge. Le sujet qui a fait chuter Stefan Löfven, c'est son nom, est révélateur. C'est une vive controverse sur le maintien ou l'abandon de l'enquête. Encadrement des loyers. Sur cette question, le Premier ministre a été incapable de réconcilier ses deux alliés, centristes d'un côté, de gauche post-communiste de l'autre, incapable de parvenir, vous savez, à une synthèse, pour reprendre la formule chère aux socialistes français, cette synthèse, cet art du compromis, qui a longtemps fait la force de la social-démocratie.
Et donc avec la Suède, c'est l'un des derniers bastions sociaux-démocrates qui tremble sur ses fondations, Jean-Marc.
Petit flashback, il y a 20 ans, les sociaux-démocrates dirigeaient plus de la moitié des pays européens. Ils étaient puissants en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Grèce, en République tchèque. 20 ans plus tard, ils ne dirigent plus que 5 des 27 pays de l'Union, 2 au sud, l'Espagne et le Portugal, 3 au nord, le Danemark, la Suède, la Finlande. Et dans tous les cas, ce sont des gouvernements de coalition souvent minoritaires. La perte de vitesse est spectaculaire et désormais, elle touche même donc le porte-drapeau, la Suède. Alors comment expliquer cette situation? En fait, les sociaux-démocrates sont empêtrés dans de multiples contradictions, d'où la sensation que leur logiciel est dépassé. Contradiction sur la mondialisation, faut-il porter l'ouverture au monde ou la défense de salariés déclassés par l'économie mondialisée? Contradiction sur l'immigration, faut-il accueillir les exilés en en quête d'une vie meilleure ou céder aux sirènes du repli protectionniste? Contradiction sur la place de l'homme dans la société. Faut-il continuer à défendre le collectif ou accepter l'individualisation du monde? Et puis à 20 ans, lorsqu'ils étaient majoritaires en Europe, les sociodémocrates ont raté le coche. Ils avaient l'occasion d'imposer ensemble un agenda commun supranational. Ils sont restés chacun dans leur coin.
Et alors pour en revenir à la Suède, Jean-Marc, la suite c'est quoi?
Alors un autre dirigeant politique devrait se voir confier le défi de constituer une nouvelle coalition gouvernementale, mais si personne n'y parvient, des élections anticipées seront convoquées. La Suède pourrait alors vivre un bouleversement encore plus profond, avec la victoire possible d'une alliance droite-extrême droite. Pas de Front républicain à Stockholm. Pour la première fois, le grand parti de droite imagine de gouverner avec le parti anti-immigration de Jimmy Åkesson, crédité de 18% des intentions de vote. Parti curieusement nommé démocrate de Suède, alors qu'il est quand même l'héritier de groupuscules nazis. Il vient donc de signer un pacte avec la droite sur les questions migratoires. C'est un sujet sensible, évidemment, dans un pays qui, plus que tout autre en Europe, a accueilli de nombreux immigrés ces dernières années. 160 000, c'est considérable rapporté à la population du pays. Que cette alliance droite-extrême droite arrive au pouvoir, l'échec de la social-démocratie suédoise serait alors consommé. C'est d'ailleurs un paradoxe parce que la Suède reste un pays où il fait bon vivre. PIB par habitant élevé, chômage maîtrisé, vraie égalité professionnelle homme-femme, etc. Ça ne suffit pas. En Suède, comme ailleurs, dans un monde toujours plus divisé, plus polarisé, les sociodémocrates ne sont plus une balise incontournable. Et les Suédois sont donc tentés de leur dire « farvel », au revoir.
Mais à demain quand même, Jean-Marc Four. Merci beaucoup et à tout de suite tout le monde.